Pola,
Vin
et Compagnie.
Une émission où l'on parle de polar et de vin en bonne compagnie.
Proposée par l'association Culture Art Polar Sud Aveyron.
Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible.
Bonjour auditeurs et auditrices, lecteurs et lectrices, 18e et dernier chapitre du tome 2 de Polar Vin et Compagnie avec un sacré quatuor de joyeux drilles bien illuminé de la trogne. Mais plus que leur amour du vin, c'est leur passion pour les polars qui les réunit ici, Florent, Guy, Nico et moi-même. Messieurs, je vous salue et vous remercie de m'avoir si bien reçu tout au long de cette saison.
Bien le bonjour.
Bonjour.
Bonjour William et bonjour à toutes.
Guy, l'association Cap Polar est en effervescence. Concours de nouvelles, festival jazz et polar, journée polar et gastronomie. On commence par le concours de nouvelles.
Ben oui, le concours de nouvelles est d'actualité puisque la période pour écrire se termine le 31 août. Donc ça reste laisse un gros mois et demi pour écrire une nouvelle, 3 pages maximum. Ce qui devrait être dans le du domaine du possible. Ce concours de nouvelles est dans le cadre de l'activité Polar Vin et Compagnie. Il faut dire qu'il y a un règlement qu'on peut trouver sur le blog où on peut nous demander sur capsudaveyron12@gmail.com. On peut nous demander le règlement, on peut vous l'envoyer. Voilà. Donc, le concours de nouvelles, c'est des nouvelles qui doivent appartenir à un genre spécifique policier, noir ou thriller. Donc, polar au sens large. Les textes ont quand même quelques obligations, puisque le texte doit commencer par une phrase. La phrase de début doit être « Avec une bande de bras cassés pareil, pas étonnant que c'est tourné à la béchamel. »
On pourrait le dire pour cette émission.
Aussi. Et devra se terminer par une phrase qui peut être placée en dernier ou en avant-dernier, en deux phrases avant la fin. « Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. » Donc c'est une petite épreuve qui tout le monde peut relever, sauf les professionnels d'écriture. Ceux qui ont été déjà édités ne peuvent pas, a priori, ne devraient pas pouvoir participer, mais bon, on n'est pas sûr qu'ils veuillent y participer d'ailleurs. Et il y a un jury qui est composé de membres du jury Robin Cook 2025, plus deux pièces à rapporter qui sont devant moi dans ce studio.
Absolument.
William.
Ouais.
Et Florent, alors c'est vrai qu'on peut éventuellement, moyen en finance, je pense qu'on peut essayer d'orienter les votes.
Moi je suis pas corruptible. Hein.
Nous sommes incorruptibles.
Vous devez faire l'erreur.
Mais c'est pas de vous que je parlais. Hein.
Bon, on en a reçu déjà pas mal, j'ai vu là,
Ouais, tout à fait, il y en a actuellement, il y a quelques petits, une bonne dizaine de nouvelles qui vont permettre de commencer à travailler, le jury a commencé à les lire, et c'est vrai qu'il y a, du bon
boulot. Ouais, moi j'en ai lu 2-3,
il y a du bon boulot. Ouais. Alors, la particularité, c'est qu'il faut quand même rester bien dans le genre, il faut bien lire le règlement, parce que le jugement, l'appréciation de la sélection des nouvelles ne va pas se faire spécifiquement que sur l'écrit, il faudra quand même qu'il y ait une intrigue, il faudra qu'on soit dans le genre, parce qu'il y a, malheureusement, il y a déjà des petits hors-sujets, qui sont bien écrits, mais qui sont hors-sujets, enfin, à mon sens, mais bon.
Voilà. J'ai vu qu'il y en avait une qui était signée Olivier B. C. Cédille. J'ai un soupçon.
Alors, celui-là, il est un peu tordu, mais non, je crois pas. Je n'ai pas vu.
Non, Olivier Bordassard, tu n'as pas le droit de jouer.
Non.
Quand est-ce qu'on remet le prix de la
nouvelle? Alors, le vainqueur sera déclaré le 20 septembre.
Ok.
Puisqu'il faut laisser quand même le temps à ce jury de lire toutes ces nouvelles qui vont arriver, les apprécier et échanger entre eux pour essayer de sortir une nouvelle, les 5 premières, parce qu'on va juger les 5 premières. Et la remise se fera lors de la journée gastronomie,
polar et gastronomie,
polar, vin et tout ce qu'on veut, qui va se passer à la Mesa le 27 septembre. Voilà.
Alors, une autre info, mais on y reviendra plus tard, c'est, merci Guy pour ces informations, c'est le 13 septembre, Donc une journée polar spécifique dans le cadre du festival Jazz et Polar au Viala du Tard. Cette année, c'est Louise Oligny, une autrice qui oriente ses livres vers tout ce qui est violence faite aux femmes, avec un premier roman, Colère chronique, et qui a été suivi d'ADN féminin. Et là, elle viendra présenter son nouveau roman, mais qui n'est pas un polar, qui s'appelle Perdre pays, puisque quelque part, c'est une exilée, puisqu'elle est d'origine canadienne. Et c'est une photographe, donc il y aura aussi une expo de photos. Et elle n'est pas là par hasard, parce que c'est aussi une trompettiste amateur de jazz. Donc voilà.
Elle va tout faire, quoi.
Donc voilà, ça, ce sera le 12, 13 et 14 septembre. Et le 13, évidemment, le matin, un atelier écriture organisé par l'association Cap Polar Sud Aveyron.
Qui sera menée par
Louise Oligny m'a dit qu'elle était. Elle fait déjà ça. Donc,
Et toujours ouvert à tout le monde.
Ouvert à tout le monde. Alors, il y a eu. On a beaucoup parlé du prix Robin Cook adulte. Mais il y a un autre prix dont on a assez peu parlé, sinon qu'on a cité le nom du vainqueur la semaine dernière. Il y a le dernier numéro, pardon, de Polar Vin Company.
Oui, tout à fait. Mais on a un peu oublié, puisque Bordassar a pris le dessus, hein, Olivier Bordassar a pris un peu le dessus, on a un peu oublié de parler sur Robin Cook Junior, qui a concerné les classes de CM2 de l'Hospitalier du Larzac et les 6e de Marcel Aymard Armillaud. Et il y avait une belle brochette d'écrivains qui ont participé. Et c'est vrai que au niveau roman, c'est dans la collection Frisson, Crime sous haute tension de Nicolas Feuze qui l'a emporté. Il y avait aussi un roman de Guillaume Guéraud, Mon grand-père est un gangster, qui a beaucoup plu aux élèves, je pense. D'ailleurs, il y a un commentaire sur ça, non ?
Oui, on le lira tout à l'heure.
On le lira tout à l'heure, ouais, tout à fait. Il y avait un livre de Vigneault, Le Gard, Enquête au collège, un livre de Tixier et
Risberg.
Risberg, c'est ça ?
Oui, ouais.
Risberg. 10 minutes à perdre, un livre de S. Laroche, Anatole contre la rumeur, Le scoop à Versailles de Agnès Petri, non, Anna, je ne sais pas. Et Détective Grébor, de père en fils, de Grévet et Trébor. Il y avait deux catégories, donc il y avait roman et BD.
Oui, voilà. Tout à fait.
Donc en BD, je ne l'ai pas cité, c'était Delpeuch et Hérault qui l'ont emporté.
Régis
avec
Delpeuch et Caroline Hérault. Ouais.
Voilà, Mamie Polar, des médailles pour les JO.
Et on est en ligne avec Nicolas Feuze.
Oui.
Donc tu es suisse.
Exactement.
Donc, auteur francophone. Et on a été surpris en allant voir ta bio. Tu as écrit pas mal de bouquins et de polars, justement.
Oui, alors, effectivement. Je suis d'abord un auteur de polars adulte. Et puis, depuis 2010. Et puis, c'est que depuis 2019 que j'écris aussi pour la jeunesse.
Et, ouais. Et du coup, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a envie d'écrire pour la jeunesse ?
Alors, en fait, au départ, en 2019, ou un peu avant, c'était l'éditeur Ozu à Paris, qui m'a contacté parce qu'il voulait lancer en Suisse une collection qui s'appelle Frisson Suisse pour les jeunes de 9 à 13 ans environ. Et puis cette collection a connu un immense succès en Suisse francophone. Et du coup, en février 2024, Ozu a décidé de lancer la même collection, le même genre de collection du côté France. Elle l'a appelé Frisson, elle a juste enlevé l'adjectif suisse. Et puis les deux premiers frissons de cette collection sont sortis en février 2024. Il y a Crime sous haute tension en ce qui me concerne, et puis La musique du diable de Marc Woltenhauer.
Alors, on n'a pas, parce qu'on est des grands maintenant, donc on aurait pu le lire. Mais on n'a pas lu le livre. Par contre, on a un jeune critique. Alors, il n'a pas pu venir là parce qu'il est en vacances, mais il nous a laissé son texte. C'est un jeune garçon qui a participé, qui est en CM1 à l'école de l'Hospitalet du Larzac et qui nous a fait un résumé du livre. Et c'est l'inspecteur Dérif qui est notre inspecteur à nous, qui va nous dire ce que ce jeune homme a écrit.
Voilà, ce court résumé de crime sous haute tension. C'est l'histoire d'un homme qui s'est fait tuer. Lisa et Noan, aidés de vieux d'hommes, vont retrouver les deux hommes qui l'avaient assassiné.
Est-ce que c'est un bon résumé, Nicolas ?
C'est mon résumé. Il faut préciser que la victime est un ingénieur qui travaille pour la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire, alors qui, pour les besoins de l'histoire, s'appelle Bonneville dans le livre, parce que Ozu ne voulait pas faire référence à des lieux existants. Donc il est question de la région du Berry, de Cône-sur-Loire, de Belleville-sur-Loire, et puis aussi du château de Guédelon.
D'accord.
Et c'est des mots qui ont été modifiés, en particulier en ce qui concerne Guédelon, pour des questions de droit d'auteur.
Et alors, la critique du livre aussi, importante.
Oui, la critique importante, puisque ce jeune lecteur nous dit « J'ai aimé ce livre car il y avait de l'action ». Alors, est-ce que c'est important l'action pour vos jeunes lecteurs, Monsieur Feuze ?
Alors, je pense que comme pour les polars adultes, il faut en tout cas de l'attention. Et puis là, pour les jeunes, il faut des frissons, bien entendu. Donc ça implique une enquête, mais ça implique aussi évidemment du suspense et puis un peu d'action, parce que finalement, je pense qu'on attend de la littérature policière et plus généralement aussi des films ou téléfilms policiers des scènes d'action, et ça, il faut trouver un bon compromis, un bon équilibre entre ces scènes-là. Et je pense que dans Crime sous haute tension, j'ai pas trop mal réussi cet équilibre.
Ben ouais, puisque donc on rappelle, hein, c'était les élèves de CM1 et CM2 de l'Hospitalier du Larzac, et les sixièmes du collège Marcel Aymard de Millau qui ont voté, donc qui ont choisi ton roman jeunesse. Tu es édité en France, on peut lire tes livres pour adultes, on peut les trouver.
Oui, absolument. Alors en fait, à ce jour, j'ai écrit 19 romans policiers pour les adultes, j'ai un 20e qui va sortir le 2 octobre 2025, et sur ces 20 romans policiers, je pense qu'il y en a presque une quinzaine, on va 14 sauf erreur, qui sont disponibles en France. Il y en a 6 qui ne le sont pas encore, mais qui le seront dans les années à venir, parce que l'éditeur, le livre de poche, les a tous rachetés. Donc petit à petit, on va tous les trouver en France. Et puis s'agissant des romans jeunesse, alors ceux de la collection Frissons Suisse sont difficilement trouvables en France.
Oui.
En revanche, bien entendu que la collection Frissons, Crime sous haute tension, et puis le suivant, la suite, on va dire, des aventures de Lisa et Noam, je suis en train de l'écrire. D'ailleurs, je mets un point final à ce deuxième volet qui devrait sortir en 2026.
L'inspecteur Derif, il a une question.
Allez, inspecteur.
Est-ce que ça se croise parfois les intrigues de vos polars adultes et de vos livres pour enfants? Vous voyez, là, on parlait du nucléaire. Est-ce que vous inspirez de ce que vous écrivez pour les gamins, pour les adultes, ou inversement?
À ce jour, en tout cas, j'ai pas fait de croisement, par exemple, au niveau des personnages. Je sais qu'il y a un autre auteur de la collection Frissons qui l'a fait, qui utilise dans ses romans jeunesse les neveux de son inspecteur qui se trouve dans les polars adultes. Je suis pas allé jusque-là. En revanche, c'est clair que je pense que c'est bien aussi pour la jeunesse de glisser un peu des thèmes d'actualité. Comme parallèlement à mon écriture, je travaille dans la, on va dire, dans la vraie vie, entre guillemets, comme procureur de la République en Suisse. Donc ça fait 26 ans que je dirige la police judiciaire et la gendarmerie dans les enquêtes.
Ah oui.
Ben voilà, ça me fait voir énormément de choses sur le terrain, enfin d'enquêtes, de scènes de crime aussi, et puis de thèmes relativement différents les uns des autres, mais des thèmes qui sont évidemment tous du monde de la procédure pénale, que ce soit, je peux citer des exemples, mais que ce soit voilà, dans la violence des féminicides, dans le cadre des violences domestiques, ou que ce soit du trafic de drogue, ou que ce soit des bandes organisées pour des vols par effraction, des brigandages, enfin ce genre de choses.
Et votre métier vous laisse suffisamment de temps pour écrire 19 romans?
c'est la question qui
qu'on me pose. Vous dormez quand?
Qui étonne les gens. Alors effectivement, j'ai travaillé en Suisse de 99 à 2010 comme juge d'instruction, et puis ensuite je suis devenu procureur en 2011. Je le suis toujours à l'heure actuelle, mais depuis 4 ans et demi maintenant, je travaille à temps partiel. La Suisse me permet cette faveur de travailler actuellement encore à 70%. J'aurais voulu diminuer à 50% pour pouvoir me consacrer un peu plus à l'écriture. Et finalement, il n'est pas exclu que dans les 2 ans à venir, je passe entièrement à l'écriture.
Ben, merci Nicolas, et encore bravo pour votre prix, Robin Cook Junior.
Oui, félicitations.
Merci Radio Larzac.
Merci beaucoup. Merci Polar 20 et compagnie.
Oui.
Alors, on va rester dans les juniors, mais un petit peu plus âgés, puisque Arès, qui est une collégienne, qui a fait un stage à Radio Larzac, a souhaité nous transmettre sa critique de deux romans bien noirs, ceux-là.
Bonjour, je m'appelle Arès et j'aimerais vous parler de deux romans policiers que j'ai lus ces derniers temps et qui m'ont plu. Le premier s'intitule « Il était deux fois » de Franck Thiliez et le deuxième est « Code 93 » d'Olivier Norek. Ces deux livres sont assez semblables car ils parlent tous deux d'un policier qui va poursuivre ses enquêtes. Ils racontent aussi comment les deux protagonistes font surmonter leurs problèmes personnels et réussir à résoudre leur investigation. « Il était deux fois » de Franck Thiliez est un roman policier. Le personnage principal de ce livre est un lieutenant de gendarmerie appelé Gabriel. L'histoire se déroule autour de la disparition soudaine de Julie, sa fille. Un jour où Gabriel enquête sur la disparition de sa fille à l'année 2008, il se rend dans un hôtel pour poursuivre son enquête lorsqu'il s'endort. Et quand il se réveille, brusquement réveillé par une pluie d'oiseaux, il constate alors qu'on est en 2020. Démuni, il va essayer de se souvenir de son passé et va continuer son enquête à la recherche de sa fille. Ce livre m'a beaucoup plu car le suspense tient jusqu'à la fin et au fil des pages, on en sait un peu plus sans pourtant savoir la fin. Une fois qu'on est plongé dans la lecture de ce roman, on rentre parfaitement dans l'histoire. L'auteur arrive parfaitement à nous transmettre l'angoisse, le suspense, à couper le souffle et la peur ressentie par les personnages. J'ai aussi lu Code 93 d'Olivier Norek, qui est un peu dans le même genre littéraire. C'est également un livre policier dont le personnage principal est un capitaine de police qui s'appelle Victor. Victor va être confronté à devoir résoudre plusieurs meurtres qui sans doute seront tous reliés entre eux et va devoir oublier son passé douloureux pour avancer dans ces cas tout aussi différents les uns des autres, mais pourtant tous avec un lien commun. Si mes petits résumés vous ont donné envie de lire « Il était deux fois » de Franck Thiliez et « Code 93 » d'Olivier Norek, et si vous aimez les livres de mystère, vous pouvez acheter ces livres en librairie et découvrir par vous-même les histoires de ces deux auteurs.
J'ai rien à vendre. Donc, je n'ai pas à vendre du tout le livre de Pascal Dessin, et qui est notre parrain du renouveau de l'association Polar Vin et Compagnie. Mais bon, c'est ma petite femme retraitée qui a lu ce livre pour vous et qui m'a dit « il faut que tu le lises ». Alors je lui ai dit « mais essaye de me convaincre ». Alors elle m'a fait un petit texte pour essayer de me convaincre de lire ce livre. Voilà. Donc j'ai rien à vendre par contre. Surtout que je ne vends plus de livres. Donc c'est l'envers de la girafe de Pascal Dessin au collection Rivage Noir aux éditions Payot et Rivage. Nous sommes dans un quartier populaire de Toulouse. Comme souvent dans les quartiers des grandes villes, les gens ne se connaissent pas, ils se croisent sans se voir. Il y a celui qui est chargé de la vidéosurveillance du carrefour, dont la femme a un amant, son adjoint qui ne s'intéresse qu'aux girafes. Il y a aussi Zélie, qui n'a qu'une obsession, défendre les oiseaux du quartier, et son compagnon qui est transporteur de matières dangereuses. Puis il y a le botaniste qui marque les mauvaises herbes à la craie sur les trottoirs du quartier et l'homme qui dérange car il ne veut pas entretenir son jardin. Tous s'observent et un jour, le destin provoqué par l'élagage des platanes va faire basculer cet équilibre précaire et entremêler leur vie. L'auteur met en scène des personnes dont la vie est des plus banales mais qui ont toute une blessure psychologique qui peut amener à la catastrophe. C'est essentiellement l'amour de la nature qui va les faire se rencontrer. Le récit est fait de scénettes qui finissent par s'imbriquer et amènent à l'histoire à un point de rupture. Il ne peut y avoir de retour en arrière. Pascal Dessin défend une fois encore la nature sauvage et les oiseaux qu'il aime tant. Il nous donne à réfléchir sur tous ces petits gestes qui peuvent amener un peu de vie meilleure dans nos villes petites ou grandes. Il nous fait entrevoir la fragilité des hommes quand ils ne vivent pas en harmonie avec leurs convictions. Ce roman, classé comme noir, est plutôt, pour moi, une ode à la nature et à l'humanité. Il est aussi tendre et drôle que terrible.
Et ta femme a du talent. Alors, Florent, nouvelle découverte, nouveau premier roman.
Absolument. Premier roman de Véronique Prel aux éditions du Penseur, PNSEUR. On dira que c'était un accident.
En 1455, Johannes Gutenberg a imprimé la première Bible.
Mais ne recommence pas, hein, sinon...
Je vais briser tes os! Je vais boire ton sang!
Et toujours comme ça, la première fois.
Bonjour Véronique Prel.
Bonjour.
Alors, Véronique Prel, c'est votre premier roman.
Oui.
Il est bien noir, d'ailleurs, bien rythmé et plein d'humour, que je qualifierais de distancié, hein, de l'humour noir, en fait.
Oui.
Voilà, donc j'ai une première question assez simple. Quelles sont les influences littéraires qui vous ont inspiré dans l'écriture de ce roman ?
J'ai une mémoire qui peut parfois me faire défaut, mais j'ai ma bibliothèque à côté. Il suffit que j'aille y faire un petit tour pour rapidement voir les lectures qui ont, en termes de style et voilà, d'ambiance,
oui,
que j'avais envie de créer dans ce roman. J'ai Laurent Mauvigné, Histoire de la nuit sous les yeux, par exemple. Laurent Mauvigné est très doué pour mettre une tension narrative et un suspense très efficace. J'ai Yves Ravet, je ne sais pas si vous connaissez Yves Ravet, c'est un auteur belge, je crois, qui écrit des petits romans assez courts, mais très efficaces, où il n'y a pas un mot de trop.
D'accord.
Et c'est pareil, on est toujours dans une ambiance assez tendue.
On reparlera tout à l'heure de votre style, mais alors c'est vrai que l'idée de pas mettre de mots inutiles, je dirais que ça caractérise un peu votre écriture. Alors je vais faire un petit résumé du roman, hein. C'est vraiment très court, donc c'est donc l'histoire d'une mère, Freddy, et de son fils qui vient d'avoir 18 ans, Lior. C'est l'histoire aussi d'un lien compliqué donc, entre cette mère borderline et un fils qui est au bord d'une autre vie. Ça se passe en banlieue, à une lieue du banc public, au bord de la ville. J'ai presque envie de vous dire, vous auriez pu sous-titrer le roman « La vie au bord ». Comment est-ce que vous définissez, vous, la relation entre Freddy et Lior ?
C'est une famille monoparentale dysfonctionnelle. Mère solo, elle a son fils à 20 ans, un accident un soir de son anniversaire, où elle a une aventure et voilà, elle se retrouve enceinte par accident, donc c'est un des accidents qui va ponctuer le texte. Leur relation, je pense qu'il y a de l'amour, mais de l'amour maladroit, de l'amour qui n'arrive pas à s'exprimer. Lui, il se retrouve, il y a une espèce d'inversion. Normalement, l'enfant est protégé par son parent. Dans ce roman, c'est l'enfant qui essaye de mettre en place des choses pour aider sa mère. Ce sont des choses qui arrivent, malheureusement. J'ai voulu construire cette histoire comme ça. L'histoire, vous disiez, est très noire. J'ai tourné autour longtemps dans l'écriture. Depuis des années, ça fait une bonne dizaine d'années que je me consacre à l'écriture. Et je tournais autour. Je voulais une histoire mère-fils, dysfonctionnelle, parce que c'est plus intéressant. Et je tournais autour et à un moment, j'ai réussi à lâcher. J'ai réussi à lâcher et aller là où Freddy... En fait, je retenais d'aller au bout, d'aller au fond du personnage. C'est-à-dire, je voulais pas trop l'abîmer. Et je pense que ce roman fonctionne parce que je me suis autorisée à abîmer un des personnages.
Alors, l'idée, en fait, du roman, elle vous est venue petit à petit. Vous avez tourné autour. Mais en même temps, c'est vrai qu'on a l'impression que le roman est écrit d'un seul jet.
Mais c'est ça. En fait, j'ai tourné autour longtemps. Mais quand il est venu d'un jeu.
D'accord.
Ouais. En fait, j'ai écrit un précédent roman qui s'approchait, c'était la Genèse, mais c'était pas du tout la même histoire, c'était pas les mêmes personnages. Ça fonctionnait pas, j'étais pas satisfaite. Je l'ai même pas envoyé aux maisons d'édition. Et après, j'étais passée à autre chose et je suis revenue sur cette relation mère-fils qui me tenait à cœur. Il est venu comme un jeu parce qu'il est arrivé à un moment de ma vie où moi, j'étais confrontée à quelque chose de... Je dirais pas similaire, mais quelque chose qui s'y approche. C'est-à-dire, dans mon entourage, j'ai quelqu'un qui a des addictions. Et je me suis retrouvée dans une position d'aide. Et j'ai écrit ce roman à ce moment-là de ma vie.
D'accord, donc une histoire qui vous a touchée. Puis c'est un roman aussi qui se passe dans la cité. Enfin, dans une cité, au 15e étage d'une tour. On ne sait pas vraiment où. Enfin, on imagine en banlieue parisienne, en tout cas. C'est pas si courant, d'ailleurs, pour un roman noir. Il y a une mode aujourd'hui qui place un peu le roman noir ou le roman policier souvent dans le rural.
Ouais.
C'est souvent le cadre d'une intrigue. Et puis là, en plus, c'est un roman, de mon point de vue, qui confronte justement deux points de vue différents. sur un même diagnostic, voilà, entre Freddy et Igor. Et puis il y a beaucoup d'humour dans des vies déchirées. Alors j'ai pas seulement aimé les deux principaux personnages, j'aime beaucoup aussi les autres protagonistes. Alors je pense à la petite amie de Lior, la grande amie de Lior, l'ami de musique de Lior.
Ouais, il y a Samy, Laurine.
Voilà, il y a pas que ce couple dysfonctionnel où il y a beaucoup d'amour d'ailleurs, mais est-ce que vous, dans ce roman, vous vouliez montrer aussi ce qu'était peut-être la vie en banlieue, c'est-à-dire faite d'amour, de musique, d'amitié, de solidarité, tout ce que vous décrivez par petits bouts, souvent, enfin, par petites touches.
Des petits gens, en fait, des petits gens comme ça qui... Lior, il est entouré, Freddy est un peu seul, elle...
Ouais.
Elle est un peu esselée, mais pour justement équilibrer avec cette solitude un peu plombante, je voulais que Lior soit lui bien entouré. Et voilà, et je pense que dans les quartiers comme partout, il y a des amitiés qui se font, qui se défont, et j'avais envie de donner ça un peu de douceur dans que l'histoire est quand même un peu sombre, je voulais mettre de la douceur à travers même le grand-père, le vieux, qui au départ, on ne sait pas trop, il est fermé, et finalement il s'ouvre à son petit-fils, et c'est la même chose avec ses copains, ce fameux Samy, j'ai voulu les rendre attachants.
Oui, ils le sont, puis c'est vrai qu'il y a un mystère autour du grand-père, enfin il y a un vrai mystère dans le roman. En plus de personnages qui sont très vivants. Et vous-même, vous êtes parisienne ou banlieusarde ?
Moi, je sais où il se passe ce roman.
D'accord.
Je ne sais pas si je peux le dire. Enfin, moi, je l'ai construit en le situant sur la ligne B du RER, entre Aulnay, Villeparisis, Vergalant. Là où j'ai grandi, juste à côté. Mes grands-parents habitaient là. Donc je connais bien, quand je voulais aller à Paris, j'ai passé toute mon enfance jusqu'à mes 20 et quelques années, je prenais le RER pour aller à Paris. Alors après, j'ai vécu moi en Belgique, et aujourd'hui je suis à Paris même, mais j'ai grandi alors j'étais pas dans les quartiers parce que j'étais un petit peu reculée, j'étais à 6-7 kilomètres, un peu plus dans la campagne.
D'accord.
Mais mes grands-parents étaient là et je connais très bien ce quartier-là. Et je prenais mon RER, j'étais adolescente, pour aller me balader.
D'accord.
C'était ce RER-là.
Donc vous connaissez bien l'énergie de ces coins.
Je connais bien moins aujourd'hui, mais à l'époque. Oui. Et puis voilà, je continue d'aller de temps en temps dans ce coin-là. J'ai encore de la famille et des connaissances.
Et vous devez être aussi une passionnée de cinéma, quand on lit. Vous aimez bien le cinéma.
Il y a un cinéma qui existe encore, qui s'appelle le Jacques Tati, à Tremblay en France, et qui passait des films. C'est un cinéma d'arrêt d'essai qui se trouve en plein milieu de la cité, et c'est assez ça peut paraître un peu improbable, mais il est là et il passe des films d'auteur, et j'y allais régulièrement, et il existe encore, ce cinéma.
Bonne nouvelle donc pour les amateurs. Et bon, alors pour en revenir aussi rapidement à votre style d'écriture. Alors, je ne sais pas s'il y a un style, Véronique Prel, hein, puisque c'est censé être votre premier roman, mais j'ai vu que vous aviez eu une édition d'un recueil qui s'appelle Marel, je crois.
Oui, j'avais auto-édité.
Il y a longtemps.
J'avais auto-édité un petit recueil de nouvelles. J'avais fait ça, j'avais besoin que ça existe. Mmh. Je n'avais même pas fait de démarche auprès des éditeurs. Je l'avais auto-publié. C'est pour le coup très autobiographique.
D'accord. Donc moi, je ne l'ai pas lu. Donc, je ne sais pas si on retrouve vos phrases courtes, des phrases qui vont à l'essentiel, qui souvent tapent juste. Ouais. Est-ce que votre style, ça veut dire qu'il y a une urgence, comme on l'a dit tout à l'heure, dans l'écriture, l'idée de faire en sorte qu'une fois qu'il faut faire le roman, il faut que rien ne se perde, il faut le faire vite, quoi, en gros.
Alors, je le fais pour écrire court, je mets beaucoup de temps.
D'accord.
Ça peut paraître contradictoire, hein, mais je mets beaucoup de temps pour faire court.
Okay.
Parce que je gomme un peu à la Yves Ravet. C'est un de mes modèles. Je l'ai écouté beaucoup en interview, même s'il n'est pas très médiatisé. Il dit, il ne faut pas qu'il y ait un mot de trop. Il n'y a pas de gras. Il ne faut pas de gras. Mais au départ, le premier jet, on en met beaucoup du gras. Là, en plus, si vous voulez, ce sont des personnages qui ont ce langage-là. Je peux étirer un peu, je pense que j'en suis capable. Là, je suis sur l'écriture d'autre chose et j'essaie d'étirer un petit peu parce que j'ai moins d'urgence parce que le personnage ne vit pas la même chose. Et,
ouais.
Et là, on est dans une urgence de A à Z. C'est-à-dire que le fond rejoint la forme. Ça se passe sur 15 jours. Ça se passe, on se demande voilà, à quel moment. Et puis, c'est une femme qui est prise dans... Il n'y a pas de temps à perdre dans quoi que ce soit. On est dans l'urgence, dans l'histoire et dans l'écriture.
Oui, c'est vrai.
Et ça me demande du temps. C'est-à-dire, je retravaille beaucoup et je coupe pour créer cet effet-là, en fait. Et des fois, c'est frustrant parce que je me dis, ah, mais ça, peut-être que ça manque un peu de vocabulaire. Peut-être. Non, c'est comme ça qu'il devait être écrit. Ouais. Là-dessus, mon éditeur, il m'a aidé à couper. Alors, après, on a rajouté de temps en temps quand il y avait un peu d'espace. Mais lui m'a dit non, c'est comme ça qu'il faut l'écrire, c'est du présent, c'est du ça va vite quoi. Et voilà, c'est comme ça que ressort le style.
Et pour en revenir
au prochain, je ne sais pas, ouais. c'est trop tôt, mais il y a certainement un style comme ça assez. J'écris des choses assez courtes. Là, les personnages m'amenaient à ça aussi.
Ouais,
l'urgence de leur vie.
Le titre aussi est assez drôle et en même temps c'est un peu une mise en abîme. Hein, on dira que c'était un accident. Bon, c'est drôle quand on connaît l'accident qui ouvre l'histoire en fait,
ouais.
dans les premières pages. Et puis c'est aussi une mise en abîme, je pense, parce que la vie est-elle un accident, hein, on peut se demander parfois. Mais l'humour pour vous c'est une échappatoire préférée pour pouvoir aborder des sujets. Qui touche quoi, c'est
ouais je trouve que c'est plus agréable. Je sais plus, j'avais eu un libraire qui m'avait fait un petit retour qui disait des histoires à rire pour des destins à pleurer, quelque chose qui,
ouais, c'est pas mal comme
ça.
Voilà. En tout cas, j'ai dévoré votre roman. Et là, vous avez d'autres choses en cours, donc d'autres projets littéraires.
Je vais rester dans le noir.
Vous restez dans le noir, vous nous en dites pas plus et ce sera noir. C'est ça.
Ce sera encore noir. J'ai du matériau et je laisse l'écriture me porter un petit peu. Donc parfois je pars, je ne sais pas toujours où je vais quand je démarre. Bon, au bout d'un moment, il faut savoir où on va, sinon on se perd. Mais l'écriture, elle nous emmène en fait. Et on va là où elle nous emmène. Donc bon. il faut assumer ça parce que c'est comme ça qu'on est sincère dans l'écriture.
Bien, en attendant le nouveau roman noir de Véronique Prel, je conseille à toutes et à tous d'acheter « On dira que c'était un accident » et de vous régaler en vous plongeant dans cette histoire qui va du cycle du lave-vaisselle au cycle de la vie sans temps mort. Voilà, nous voilà donc arrivés à la fin de ce court entretien. J'aurais une dernière question pour vous. Madame Prel,
ouais.
Quelle boisson et quelle musique accompagneraient parfaitement la lecture de On dira que c'était un accident ?
Alors, la boisson, j'irais vers un vin blanc pas trop cher, un chardonnay bien frais. Et la musique, il y a une scène où Freddy, elle est chez elle, elle s'apprête pour sortir. Et puis finalement, elle ne va pas sortir, mais elle met sa playlist dans son appartement. Je n'ai pas nommé la musique, j'ai mis qu'elle mettait sa playlist dance music, mais immédiatement comme ça, je pense à Cyndi Lauper. Girls just want to have fun. Voilà.
Oui, ça va bien au personnage.
Ce genre de choses.
Ouais.
Elle devient un peu folle dans son appartement, quoi.
Eh ben, je vous remercie infiniment de nous avoir consacré un peu de votre temps, Véronique Prel.
C'est moi qui vous remercie.
Et puis, je rappelle le titre de votre roman, On dira que c'était un accident, aux éditions du Penseur, qui fait un super travail d'éditeur. Je dis ça en passant. Voilà, j'espère que tout le monde aura apprécié ce moment, et surtout vous.
Oui, j'ai beaucoup apprécié. Merci beaucoup, j'ai passé très très vite.
À très bientôt.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
And
C'était Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun. Les boomers que nous sommes, ça nous rappelle des souvenirs. Morceau choisi par Véronique Prel. Pour le vin, nous retrouvons Cécile, jeune sommelière, qui nous avait donné de très bons conseils de dégustation. Le domaine où elle travaille, le domaine La Tour de Gâtigne, produit un chardonnay bio qui conviendra, c'est sûr, à Véronique Prel. On dira que c'était un bon vin, n'est-ce pas, messieurs? Vous le connaissez, ce vin-là, tous les quatre là. Je m'y mets dedans. Hein.
Absolument.
Comment ça, on le connaît?
Certains 15 juin, non? Vous n'avez pas bu de ce vin?
J'ai bu un verre.
Il y a trop de gens qui ne savent pas ouvrir une bouteille de vin.
Oui, eh bien, le pinard, c'est pas interdit que je sache.
Nous sommes avec Cécile Heurtaud. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Et alors, nous, aujourd'hui, on découvre un nouveau métier dont on n'a pas encore parlé dans Polar Veille Compagnie. C'est le métier de sommelière, enfin sommelier-sommelière.
Sommelier-sommelière, donc comme tu l'as bien souligné, effectivement, on dit les deux et un petit peu plus le côté masculin, on va dire. Mais ce qui consiste là, c'est tout ce qui sera plutôt côté restauration dans le conseil et au niveau des accords avec des mets plutôt. Mais ça peut aller plutôt en restauration, tout comme aussi également chez un caviste, sommelier, tu peux en retrouver là. Ou comme là dans mon métier actuel, où je suis commerciale dans un domaine viticole, mais avec des petites spécialités dans la sommellerie. Et donc, ça permet de pousser un peu plus les accords avec
oui,
les vins.
J'imagine que ce n'est pas facile d'être une jeune femme dans un milieu qui est plutôt masculin.
Ce n'est pas facile, mais en même temps, on arrive à trouver notre place. Ça permet d'avoir une approche un peu plus féminine. On a un peu plus de sensibilité, on va dire, que les hommes, mais après, ben voilà, il suffit de, comme un peu dans n'importe quel métier où il y aura plus d'hommes, à trouver sa place.
Il y a un diplôme de sommelier ?
Oui, malheureusement, pas assez reconnu en France, comme ce que j'ai pu faire. Il y en a différents, mais après, moi, j'ai pu faire une mention complémentaire en sommellerie, donc au lycée Georges Fraîche à Montpellier, et après, je me suis encore spécialisée 2 ans en alternance, et là, c'est un brevet professionnel en sommellerie. En France, voilà, le brevet professionnel, c'est le plus haut diplôme que je peux acquérir en France, et malheureusement, c'est considéré comme un bac plus 2, alors que le savoir derrière est beaucoup plus grand.
Quelles qualités doivent avoir les sommeliers et sommelières?
Les qualités, c'est avoir la fibre, on va dire, que ça soit du côté avec le vigneron, avec le client dans un restaurant, on va dire le côté un peu relationnel, avoir un peu tout le côté là. Et après, bien évidemment, c'est avoir le palais juste pour trouver un bon équilibre entre l'accord, ce qu'on perçoit et ce que les autres perçoivent aussi au niveau de la bouche, quoi, on va dire ça.
Et avec tout ce jargon qui fait rêver parfois.
Parfois, oui, j'ai pu apprendre certains mots comme caudalie, c'est pour décrire le temps de la persistante aromatique du vin en bouche. Ça s'appelle les caudalies. Je trouvais ça très joli comme mot.
C'est très poétique.
Mot, par exemple.
Et alors, par exemple, quand je vais dans mon bar à vin préféré, à Millau, la tenancière me demande toujours : tu préfères un vin minéral ou fruité ?
C'est une très jolie approche parce que c'est un peu deux opposés au niveau des vins. Là, on parle plutôt des vins blancs. Et ça permet de vraiment savoir ce que veut le client, s'il a tendance à préférer la minéralité. Donc, ça sera plutôt des vins blancs tendus sur la fraîcheur, alors que le côté fruité, ça sera plus le côté gourmand, avec des arômes de fruits du verger, comme les pommes, les poires, ou même le côté fruité d'un abricot ou d'une pêche de vigne. C'est en général, pour faire le parfait accord et correspondre au mieux le client, on va lui proposer deux opposés, et c'est comme ça qu'on va savoir vers où il voudra aller.
Alors, je t'ai demandé conseil pour aider le héros de notre roman Fragancia, qui se retrouve au restaurant et le malheureux va être sur un repas très poisson, lui qui a horreur du poisson, lui qui est un nez dans la parfumerie. Donc, à l'entrée, c'était des chimères de poulpe et fleurs de courgette. Avec quel vin tu l'accompagnerais ?
Avec ça, j'aimerais accompagner, pourquoi pas, un vin là où je travaille. Ça m'a fait penser le Chimère, un vin un peu particulier, Donc c'est le domaine La Tour de Gâtigne, situé à Saint-Chartes, où en fait on fait un vin, c'est en IGP Cévennes, on est sur deux cépages différents. On est sur 80% de Syrah et 20% de Viognier, donc du blanc avec du rouge, et le côté chimère me faisait penser à ça. C'est un vin rouge, donc c'est assez particulier à accorder avec du poisson. Mais vu le caractère un petit peu du plat, je pense que ça pourrait très bien correspondre, puisqu'on est sur un vin rouge vraiment très fruité et très gourmand. Et donc ça pourrait bien aller.
C'est bien, parce que tu as montré que tu étais aussi commercial.
Ouais. On n'oublie pas là où on est, oui.
Le plat, c'est un homard bleu.
L'homard bleu, c'est un mets qui est très prestigieux quand même. Donc j'ai envie de partir du côté de Chablis, qui est une appellation côté Bourgogne, et avec Monsieur Dovissa, qui est pour moi le plus beau vin blanc que j'ai pu déguster de ma petite carrière. C'est un vin blanc qui sera plus sur le côté minéral, 100% chardonnay, assez minéral, mais avec énormément de gourmandise, et le homard, c'est assez gourmand aussi, et donc ça marcherait bien avec.
Et en dessert, un flan caramel parfait accompagné d'une laitue de mer.
Un dessert assez original, et j'ai envie de partir en Alsace, dans ma région de cœur, avec le domaine Bodegail. Donc on va terminer par des bulles. Leur crément se marierait à merveille. Il ne faut pas oublier qu'on fait de très bonnes bulles aussi ailleurs qu'en Champagne. Et l'Alsace fait partie des régions phares où... Pour moi, on retrouve une qualité qui est fabuleuse, quelque chose aussi au niveau des terroirs qui est vraiment splendide et qui est très intéressant à découvrir.
Cécile, merci beaucoup de nous avoir consacré un peu de temps sur ton travail.
Merci beaucoup.
On arrive à la fin de ce dernier chapitre du tome 2 de Polar Vin et Compagnie. Alors moi, tous les étés, j'achète le hors-série de Libé, qui s'appelle Libé Polar. Cette année, les 7 familles de Polar, parce qu'effectivement, il y a un jeu dessiné par Coco. Alors si vous avez cet été des enfants que vous voulez traumatiser, vous pouvez jouer aux 7 familles de l'été du Polar. Alors, c'est un hors-série chaque année qui est mené par Alexandra Schwarzbrod, une autrice qui était venue au dernier Polar Vin & Compagnie. Et je voulais juste en lire un petit extrait. Le polar est une famille où l'on se réjouit du succès de l'autre et où l'on pleure celles et ceux qui disparaissent. Pour autant, elle n'est pas uniforme et c'est ce qui fait sa richesse. Elle a donné naissance au fil des années à plusieurs autres familles qui cohabitent sans peine et même se nourrissent les unes des autres. Voilà. Alors nous, on va se considérer comme les amis de la famille. On vous dit au revoir. On va conclure ainsi cette saison 2024-2025 de Polar Vin et Compagnie. Et on vous retrouve, c'est sûr, au mois d'octobre pour l'émission. Mais avant, il y aura des événements. Il y aura le festival Jazz et Polar au Viala du Tarn. Il y aura la journée Polar et Gastronomie le 27 septembre. Et
le 26 aussi, Eric Goffrin sera à Séverac.
À la médiathèque de Séverac.
La médiathèque.
Et voilà, et donc le 27, il sera aussi à Millau.
Voilà.
À la Messa. Ben, messieurs, encore merci de m'avoir assisté.
Merci à toi.
Et passez un bon été.
Eh ben oui, bon été à tout le monde. Radio Larzac.
Donc cette émission sera rediffusée mardi à 16h. Et puis, on vous donne rendez-vous au mois d'octobre. Et vous pouvez retrouver tous les épisodes de la saison et tous les chapitres de Polar Vin & Compagnie 2024-2025 en podcast sur radiolarzac.org.